Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour, ou bien de découvrir d'autres écrits de l'auteur choisi, et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Bonjour chers auditeurs. Suite de nos émissions d'été, nous avons choisi de vous faire redécouvrir Dino Buzzati. Aujourd'hui, Catherine vous propose Chasseur de vieux, une nouvelle assez noire sur le thème de la fuite du temps, la vie qui passe sans que l'homme s'en aperçoive. Un thème qui est assez récurrent chez Buzzati. Je pense au désert des Tartares notamment. Et Hervé, lui, il a choisi La leçon de 1980, qui, je trouve, colle pas mal à l'actualité. Je vous rappelle que les précédentes émissions sont toujours disponibles à la réécoute sur le site de Studio Zeuf.
Chasseur de vieux. Roberto Saggini, administrateur d'une petite fabrique de papier, 46 ans, les cheveux gris, bel homme, arrêta son auto à quelques pas d'un bar tabac encore ouvert. On ne sait trop par quelle chance. Il était 2 heures du matin. « Une minute, je reviens tout de suite, » dit-il à la jeune femme assise près de lui. C'était un beau brin de fille. À la lumière des réverbères, au néon, son rouge à lèvres se détachait comme une fleur épanouie. Devant le tabac, plusieurs voitures étaient garées. Il avait dû s'arrêter un peu plus loin. C'était un soir de mai, l'air printanier était tiède et vif à la fois. Toutes les rues étaient désertes. Il entra au bar, acheta ses cigarettes. Comme il était sur le pas de la porte et s'apprêtait à rejoindre sa voiture, un appel sinistre résonna. Est-ce qu'il venait de la maison d'en face, d'une rue latérale, ou bien de ces créatures surgissaient-elles de l'asphalte ? 2, 3, 5, 7 silhouettes rapides fondirent concentriquement en direction de la voiture. « Allez, tombez-lui dessus !» Et là-dessus, un coup de sifflet prolongé, modulé, la fanfare de guerre de ces jeunes canailles. Aux heures les plus imprévues de la nuit, ce signal tirait de leur sommeil des quartiers entiers et les gens frissonnants se pelotonnaient encore plus dans leur lit, en priant Dieu pour le malheureux dont le lynchage commençait. Roberto mesura le danger. C'est à lui qu'ils en avaient. On vivait une époque où les hommes de plus de 40 ans y réfléchissaient à 2 fois avant d'aller se promener en milieu de la nuit. Après 40 ans, on est vieux. Et les nouvelles générations éprouvaient un total mépris pour les vieux. Un sombre ressentiment dressait les petits-fils contre les grands-pères, les fils contre les pères. Et c'est pas tout. Il s'était créé des espèces de clubs, d'associations, de sectes, dominées par une haine sauvage envers les vieilles générations, comme si celles-ci étaient responsables de leur mécontentement, de leur mélancolie, de leur désillusion, de leur malheur, qui sont le propre de la jeunesse depuis que le monde est monde. Et la nuit, des bandes de jeunes se déchaînaient, surtout en banlieue, et pourchassaient les vieux. Quand il parvenait à en attraper un, il le bourrait de coups de pied, il lui arrachait ses vêtements, le fouettait, le peinturlurait de vernis et puis l'abandonnait ligoté à un arbre ou à un réverbère. Dans certains cas, tout à la frénésie de leur rite brutal, ils dépassaient la mesure. Et à l'aube, on trouvait au milieu de la rue des cadavres méconnaissables et souillés. Le problème des jeunes, cet éternel tourment qui depuis des millénaires s'était résolu sans drame de père en fille, s'explosait finalement. Les journaux, la radio, la télévision, les films y étaient pour quelque chose. On flattait les jeunes, on les plaignait, ils étaient adulés, exaltés, encouragés à s'imposer au monde de n'importe quelle façon. Jusqu'aux vieux, qui, apeurés devant ce vaste mouvement des esprits, y participaient pour se créer un alibi, pour faire savoir, mais c'était bien inutile, qu'ils avaient 50 ou 60 ans, ça oui, mais que leur esprit était encore jeune et qu'ils partageaient les aspirations et les souffrances des nouvelles recrues. Ils se faisaient des illusions. Ils pouvaient bien raconter ce qu'ils voulaient. Les jeunes étaient contre eux. Les jeunes se sentaient les maîtres du monde. Les jeunes, en toute justice, réclamaient le pouvoir jusqu'à leur tenue par les patriarches. L'âge est un crime, tel était leur slogan. D'où les chasses nocturnes devant lesquelles l'autorité inquiète à son tour fermait volontiers un œil. Tant pis pour eux, après tout, si des croulants qui auraient mieux fait de rester chez eux au coin de leur feu s'offraient le luxe de provoquer les jeunes avec leur frénésie sénile. C'était surtout les vieux en compagnie de femmes jeunes qui étaient visés. Alors, la jubilation des persécuteurs ne connaissait plus de bornes. Dans ces cas-là, l'homme était ligoté et roué de coups, tandis que sous ses yeux, sa compagne était soumise par ses contemporains à de longues violences corporelles raffinées de tout genre. Roberto Saggini mesura le danger, il se dit « J'ai pas le temps d'arriver jusqu'à l'auto, mais je peux me réfugier au bar. Ces petits salauds n'oseront pas entrer. Elle, au contraire, elle aura le temps de fuir. « Sylvia, Sylvia !» cria-t-il. « Démarre ! Dépêche-toi ! Vite, vite !» Heureusement, la fille comprit. D'un coup de hanche rapide, elle se glissa devant le volant, mit le contact, passa en première et démarra à toute allure en emballant le moteur. L'homme eut un soupir de soulagement. Maintenant, il devait penser à lui. Il se retourna pour trouver son salut dans le bar. Au même instant, le rideau de fer fut baissé d'un seul coup. « Ouvrez ! Ouvrez !» supplia-t-il. Personne ne répondit de l'intérieur. Comme toujours quand un raid de jeunes se déclenchait, ils restaient tous tapis dans leur coin. Personne ne voulait voir ou savoir. Personne ne voulait s'en mêler. Il n'y avait plus un instant à perdre. Bien éclairés par les réverbères puissants, 7 ou 8 types convergeaient vers lui, sans même courir tant ils étaient certains de l'attraper. L'un d'eux, grand, pâle, le crâne rasé, portait un tricot rouge foncé où se détachait un grand R majuscule blanc. « Je suis fichu », pensa Saggini. Les journaux parlaient de ce R depuis des mois. C'était le signe de Sergio Regora, le chef de bande le plus cruel qui soit. On racontait qu'il avait personnellement réglé leur compte à plus d'une 50aine de vieux. La seule chose à faire était de se risquer. À gauche, au fond de la petite rue, s'ouvrait une large place où s'était installée une fête foraine. Le tout était de réussir à arriver sans encombre jusque-là. Après, dans le fouillis des boutiques, des caravanes, ce serait facile de se cacher. Il partit à fond de train. Il était encore un homme agile. Et il vit du coin de l'œil une gamine courtaude qui débouchait sur sa droite pour lui couper le chemin. Elle aussi portait un pullover avec le R blanc. Elle avait un visage renfrogné, extrêmement déplaisant et une bouche large qui criait « « Arrête-toi, vieux cochon !» Sa main droite serrait une lourde cravache de cuir. La gamine lui tomba dessus, mais l'homme, porté par son élan, la renversa et elle se retrouva par terre avant d'avoir eu le temps de le frapper. S'étant ainsi frayé un chemin, sa Jenny, avec tout le souffle qui lui restait, s'élança vers l'espace sombre. Un grillage entourait l'endroit de la fête foraine. Il le franchit d'un bond, courut là où les ténèbres lui semblaient les plus épaisses et les autres toujours derrière lui. « Ah, il veut nous échapper, le salaud !» s'écria Sergio Regora, qui ne se pressait pas outre mesure, convaincu de tenir déjà sa proie. « Et il ose nous résister par-dessus le marché. » Sa bande galopait à côté de lui. « Oh, chef, écoute, je voudrais te dire quelque chose. » Ils étaient arrivés devant la foire, ils s'arrêtèrent. « T'as besoin de me dire ça maintenant ? Bah, je voudrais bien me tromper, mais j'ai l'impression que ce type-là, c'est mon paternel. »« Ton père, ce salaud ? Ouais, on dirait bien que c'est lui. Bah, tant mieux !» Mais je... Oh, tu vas pas la ramener maintenant, non ? Ben, c'est que ça me paraît...
Quoi ? Tu l'aimes ?
Oh, ça non, alors. C'est un tel imbécile. Et puis un enquiquiteur de première. Il n'en a jamais fini.
Alors ?
Ben, ça me fait tout de même quelque chose, quoi, si tu veux savoir.
T'es qu'une andouille, un froussard, une lavette. T'as pas honte ?
Le coup, c'est encore jamais produit avec mon père, mais je te jure que ça me ferait jouir.
Allez, allez, maintenant, c'est pas tout. Hein. Il faut le faire sortir de là.
Le cœur battant, essoufflé par sa course, Saggini s'était camouflé en se faisant le plus petit possible devant une grande banne, peut-être celle d'un cirque, complètement dans l'ombre, tâchant de se fondre sous les pans de la toile. À côté, à 5-6 mètres, il y avait une roulotte de Romanichel avec sa petite fenêtre allumée. L'air fut déchiré d'un nouveau coup de sifflet des jeunes voyous. Dans la roulotte, on entendit un remue-ménage et puis une grosse femme, opulente et très belle, se montra sur le pas de la petite porte, curieuse. « Madame, madame !» balbutia Saggini de sa cachette incertaine. « Qu'est-ce qu'il y a ? » fit-elle méfiante. « Je vous en supplie, laissez-moi entrer, je suis poursuivie, ils veulent me tuer. »« Ah non, 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 on veut pas d'embêtement ici. 20 000 lire pour vous si vous me laissez entrer. Quoi ? 20 000 lire ? Non, 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 ici on est des gens honnêtes, nous autres. »
Elle se retira, referma la porte, on entendit le bruit du verrou intérieur et puis même la lumière s'éteignit. Silence. Pas une voix. Pas un bruit de pas. Est-ce que la bande aurait renoncé ? Une horloge lointaine sonna le quart de 2 heures. Une horloge lointaine sonna la demie de 2 heures. Une horloge lointaine sonna les 3/4 de 2 heures. Lentement, attentif à ne pas faire de bruit, Sadjini se releva. Maintenant, peut-être, il allait pouvoir se tirer de là. Soudainement, un de ces maudits lui tomba dessus et leva la main droite en brandissant une chose qu'on ne distinguait pas bien. Sadjini, en un éclair, se souvint de ce que lui avait dit un ami, bien des années auparavant. Si quelqu'un cherche la bagarre, il suffit d'un coup de poing au menton, mais l'important est de bondir de toutes ses forces au même moment, en sorte que ce n'est pas seulement le poing, mais tout le poids du corps qui frappe l'agresseur. Sadjini se détendit, tandis que son poing rencontrait quelque chose de dur, avec un sourd craquement. « Ah !» gémit l'autre, s'affaissant lourdement sur le dos. Dans le visage contracté et douloureux qui se renversait en arrière, Sadjini reconnut son fils. « Toi, Ettore ?» Et il se pencha avec l'intention de le secourir. Mais 3 ombres débouchèrent. « Il est là, le voilà ! Tapez-lui dessus, à ce sale vieux !» Il s'enfuit comme un fou, bondissant d'une zone d'ombre à une autre, talonné par le halètement des chasseurs, toujours plus furieux et plus proche. Tout à coup, un objet en métal heurta sa joue, provoquant une atroce douleur. Il fit un écart désespéré, chercha une voie d'échappement. Il l'avait acculé aux limites de la foire qui ne pouvait plus lui offrir de salut. Un peu plus loin, à 100 mètres, les jardins commençaient. L'énergie du désespoir lui permit de franchir cette distance sans être rejoint, et cette manœuvre désorienta même les poursuivants. L'alarme ne fut donnée qu'au dernier moment, alors qu'il avait déjà atteint la lisière d'un petit bois. « par là, regardez-le, il veut se cacher dans le bois. Allez, allez, sue au croulant !» La poursuite reprit. Si seulement il pouvait tenir jusqu'aux premières lueurs de l'aube, il serait sauvé. Mais combien de temps encore à passer avant ? Les horloges, çà et là, sonnaient les heures, mais dans son angoisse fiévreuse, il n'arrivait pas à compter les coups. Il descendit une colline, déboula dans une petite vallée, grimpa sur une rive, traversa une quelconque rivière, mais chaque fois qu'il se retournait et regardait derrière lui, 3, 4 de ses canailles étaient toujours là, implacables, gesticulant frénétiquement tout en le pourchassant. Lorsque ses dernières forces épuisé, il se jucha péniblement sur le report d'un vieux bastion à pic. Il vit que le ciel, au-delà de la masse des toits, pâlissait. Mais il était trop tard désormais. Il se sentait complètement exténué. Le sang coulait à flots de sa joue balafrée et Rekora était sur le point de la rattraper. Il devina dans la pénombre son ricanement blanc. Ils se trouvèrent face à face, tous les deux, sur l'étroite arête herbeuse. Rekora n'eut même pas à le frapper. Pour l'éviter, Sadjini fit un pas en arrière, ne trouva que le vide et tomba, roulant sur le versant à pic, tout en pierre et en ronces. On entendit un bruit mou, puis un gémissement déchirant. « Il n'y a pas laissé sa peau, mais on lui a donné la leçon qu'il méritait, » dit Rekora. « Maintenant, il vaut mieux foutre le camp, on ne sait jamais avec les flics. » Ils s'en allèrent par petits groupes en commentant leur chasse et en se tordant de rire. Mais elle avait duré longtemps cette fois. Aucun vieux ne leur avait donné autant de fil à retordre. Eux aussi, ils se sentaient fatigués. Qui peut savoir pourquoi ils étaient très là. Le petit groupe se disloqua. Rekora partit d'un côté avec la gamine. Ils arrivèrent à une place illuminée. « Qu'est-ce que t'as sur la tête ? » demanda-t-elle. « Et toi ? » « Toi aussi ?» Ils s'approchèrent l'un de l'autre, s'examinant réciproquement. « Mon Dieu, mais t'en as une figure, et tous blancs sur tes cheveux. Mais toi aussi, t'as une tête épouvantable. » Une inquiétude soudaine, cela n'était jamais arrivé encore à Rekora. Il s'approcha d'une vitrine pour se regarder. Dans le miroir, il vit très distinctement un homme sur la 50aine environ, les yeux et les joues flasques, les paupières flétries, un cou comme celui des pélicans. Il essaya de sourire, il lui manquait 2 dents juste sur le devant. Était-ce un cauchemar ? Il se retourna, la fille avait disparu. Et puis du fond de la place, à toute allure, 3 garçons se précipitèrent sur lui. Ils étaient 5, 8, ils lancèrent un long coup de sifflet terrifiant. « Allez, allez, tombez-lui dessus au croulant !» Maintenant, c'était lui le vieux, et son tour était arrivé. Rekora commença à courir de toutes ses forces, mais elles étaient faibles. La jeunesse, cette saison fanfaronne et sans pitié qui semblait devoir durer toujours, qui semblait ne jamais devoir finir. Et une nuit avait suffi à la brûler. Maintenant, il ne restait plus rien à dépenser.
La leçon de 1980. Excédé à la fin par tant de querelles sur terre, le Père éternel décida de donner aux hommes une leçon salitaire. À minuit précise, le mardi 31 décembre 1979, le chef du gouvernement soviétique Piotr Semyonovitch Kurulin mourut subitement. Il trinquait justement à la nouvelle année lors d'une réception donnée en l'honneur des représentants de la Fédération des démocraties de l'Afrique orientale, et il en était à son 12e verre de vodka lorsque le sourire s'éteignit sur ses lèvres et qu'il s'écroula par terre comme un sac de ciment au milieu de la consternation générale. Le monde fut ébranlé par des réactions opposées On était alors arrivé à l'une de ces périodes de crise aiguë et redoutable de la guerre froide, comme il n'y en avait peut-être encore jamais eu. Cette fois-ci, le motif de la tension entre le bloc communiste et le bloc occidental était la revendication et la possession du cratère de Copernic sur la Lune. Dans cette vaste région riche en métaux rares se trouvaient des forces d'occupation américaines et soviétiques, les premières concentrées dans une zone centrale réduite, les autres sur les pourtours. Qui était descendu le premier ? Qui pouvait se vanter d'un droit de priorité ? Justement, quelques jours avant, c'est-à-dire la veille de Noël, geste qui fut jugé par de très mauvais goût par les pays libres, Curulin, à propos du cratère de Copernic, avait tenu des propos très violents, proclamant ouvertement la supériorité soviétique dans le domaine des moyens de décompression. Les bombes thermonucléaires utilisées auparavant comme épouvantail lors des conflits internationaux étaient désormais des vieilleries poussiéreuses. Les responsables de cette nouvelle agression capitaliste, avaient-ils dit dans un style qui rappelait feu Khrouchtchev, veulent compter sur nous. En 25 secondes aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire éclater comme autant de petits ballonnets tous les habitants des pays respectifs. Il faisait ainsi allusion au dispositif secret capable de supprimer sur de vastes territoires la pression atmosphérique avec toutes les funestes conséquences que cela entraînerait. Habitués comme ils l'étaient désormais à l'éloquence plutôt antipathique de leur grand adversaire, les Occidentaux n'avaient naturellement pas pris au pied de la lettre la menace de Curulin, mais ils ne s'en étaient quand même pas caché la gravité. En somme, c'était un nouveau Dien Bien Phu multiplié par 100 qui se préparait sur la Lune. La disparition soudaine de Curulin fut donc un immense soulagement pour l'Amérique. Comme ses prédécesseurs, du reste, il avait centralisé presque toutes les charges du pouvoir. Bien qu'il n'existât, du moins apparemment, aucune opposition intérieure, sa politique pouvait être définie comme tout à fait personnelle. Lui disparu, il n'y aurait inévitablement à Moscou une période d'indécision et de flottement, en tout cas de durcissement diplomatique et militaire, les soviétiques s'atténueraient sensiblement. Symétriquement, dans le champ russe, le désarroi fut tout aussi grand, d'autant plus que le dédaigneux isolement de la Chine ne laissait présager rien de bon. En outre, le décès du dictateur, juste au moment où il allait inaugurer un nouveau décennat, un nouveau plan quinquennal devait être lancé incessamment, fit une mauvaise impression pour le peuple. Instinctivement, on y voyait un mauvais présage. Mais l'année à peine née devait décidément se révéler riche en imprévus. Une semaine après, à minuit précise, le mardi 7 janvier, quelque chose qui ressemblait fort à un infarctus terrassa à sa table de travail, tandis qu'il conférait avec le secrétaire à la marine de guerre, le président des États-Unis. Le valeureux technicien et pionnier symbole de l'intrépide esprit national qui avait été le premier Américain à poser le pied sur la Lune. Le fait qu'à une semaine d'intervalle exactement, les deux plus grands antagonistes du conflit mondial aient disparu de la scène provoqua une émotion indicible. Et qui plus est, à minuit tous les deux. On parla d'assassinat fomenté par une secte secrète. Certains firent des suppositions abracadabrantes sur l'intervention de forces extraterrestres. D'autres allèrent même jusqu'à soupçonner une sorte de jugement de Dieu. Les commentateurs politiques ne savaient plus à quel saint se vouer. Oui, bien sûr, ça pouvait être une pure coïncidence fortuite, mais l'hypothèse était difficile à avaler, d'autant que Curulin et Fredrickson, le président américain, avaient joui jusqu'alors d'une santé de fer. Pendant ce temps-là, à Moscou, l'intérim du pouvoir était assuré par un soviet collectif. À Washington, selon la Constitution, la charge suprême passa automatiquement au vice-président Victor S. Clément, sage administrateur et juriste largement sexagénaire, jusque-là gouverneur du Nebraska. La nuit du 14 janvier 1980, Un mardi, lorsque la pendule placée sur la cheminée où flambaient des bûches ont sonné 12 coups, Monsieur Clément, qui était en train de lire un roman policier, assis dans son fauteuil au coin du feu, laissa tomber le livre, pencha doucement la tête en avant et ne bougea plus. Les soins que lui prodiguèrent ses familiers, puis les médecins accourus, ne servirent à rien. Clément, lui aussi, s'en était allé dans le monde de la majorité. Cette fois, une vague de terreur superstitieuse déferla sur l'univers. Non, on ne pouvait plus parler de hasard. Une puissance surhumaine s'était mise en mouvement pour frapper à échéance fixe, avec une précision toute mathématique, les grands de ce monde. Et les observateurs les plus perspicaces crurent avoir décelé les mécanismes de l'effroyable phénomène. Par décret supérieur, la mort enlevait chaque semaine celui qui à ce moment-là était parmi les hommes le plus puissant de tous. 3 cas même très étranges ne permettent certes pas de formuler une loi. Cette interprétation toutefois frappa les esprits et un point d'interrogation angoissé se posa. À qui le tour mardi prochain ? Après Curulin, Fredrickson et Clément, quel était l'homme le plus puissant de l'univers destiné à périr ? Dans le monde entier, une fièvre de Paris se déclencha pour cette course à la mort. La tension des esprits en fit une semaine inoubliable. Qui était le plus intéressé par le cratère de Copernic ? Plus d'un chef d'État était tiraillé entre l'orgueil et la peur. D'une part, l'idée d'être choisi pour le sacrifice de la nuit du mardi le flattait, parce que c'était un critère évident de sa propre autorité. Et d'autre part, l'instinct de conservation faisait entendre sa foi. Le matin du 21 janvier, Lu Qinmin, le très secret et mystérieux chef de la Chine, convaincu plus ou moins présomptueusement que son tour était venu, et pour bien manifester son libre arbitre vis-à-vis de la volonté de l'Éternel, athée comme il l'était, se donna la mort. Dans le même temps, le très vieux de Gaulle, désormais seigneur mythique de la France, persuadé lui aussi d'être l'élu, prononça avec le peu de voix qui lui restait un noble discours d'adieu à son pays, parvenant de l'avis presque unanime au sommet de l'élégance. Malgré le lourd fardeau de ses 90 ans, on constata alors combien l'ambition pouvait l'emporter sur toute autre chose. Il se trouvait des hommes heureux de mourir du moment que leur mort révélait leur prééminence sur le reste du genre humain. Mais avec une amère désillusion, de Gaulle se trouva, minuit passé, en excellente santé. Par contre, celui qui mourut brutalement à la stupéfaction générale, ce fut Kossio, le dynamique président de la Fédération de l'Afrique occidentale, qui jusqu'alors avait toujours joui d'une réputation de sympathique histrion. Et puis la nouvelle se propagea qu'au centre de recherche qui avait été créé au Buzundu, on avait découvert le moyen de déshydrater gens et choses à distance, ce qui constituait une arme redoutable en temps de guerre. Après quoi, la loi « c'est le plus puissant qui meurt » se trouvant confirmée, on constata un sauve-qui-peut général des charges les plus élevées et hier encore les plus recherchées. Presque tous les sièges présidentiels restèrent vacants. Le pouvoir auparavant convoité avec avidité brûlait les mains de ceux qu'il détenait. Il y eut parmi les gros bonnets de la politique, de l'industrie et de la finance une course désespérée à qui serait le moins important. Tous se faisaient petits, repliaient leurs ailes, affichaient un noir pessimisme sur le sort de leur propre patrie, de leur propre parti, de leurs propres entreprises. Le monde renversé, un spectacle divertissant, n'eût été le cauchemar du prochain mardi soir. Et puis, toujours à minuit, le 5e mardi, le 6e et le 7e, Oshai, le vice-président de la Chine, Fal El Nissan, l'éminence grise du Caire, ainsi que le vénérable Kaltenbrenner, surnommé encore le sultan de la Roure, furent éliminés du jeu. par la suite, les victimes furent fauchées parmi des hommes de moindre envergure. La défection des titulaires épouvantés avait laissé inoccupés les postes éminents de commandement. Seul le vieux de Gaulle, imperturbable comme toujours, n'avait pas lâché le sceptre. Mais la mort, qui sait pourquoi, ne lui accorda pas satisfaction. Il faut bien reconnaître qu'il fut même l'unique exception à la règle. Par contre, des personnages moins importants que lui tombèrent à l'échéance du mardi soir. Peut-être le Père Éternel, en faisant semblant de l'ignorer, voulait-il lui donner une leçon d'humilité ? Au bout de 2 mois, il n'y avait plus un dictateur, plus un chef de gouvernement, plus un leader de grand parti, un président directeur général de grosse industrie. Fantastique, tous démissionnaires. Il ne resta à la tête des nations et des grandes firmes que des commissions de collègues paritaires, où chaque membre se gardait bien d'attirer l'attention sur lui. Dans le même temps, les hommes les plus riches du monde se débarrassaient en toute hâte de leur incroyable accumulation de milliards par des gigantesques donations à des œuvres sociales, à des mécénats artistiques. On en arriva à des paradoxes inouïs. Lors de la campagne électorale en Argentine, le président Hermosino, craignant une majorité de voix comme la peste, se diffama tellement lui-même qu'il tomba sous le coup de l'accusation d'outrage au chef d'État. Dans l'Unita de Rome, les éditoriaux endeuillés proclamaient la complète dissolution du Parti communiste. En réalité, encore très actif, c'était le député Cominzaro, leader du parti, qui, attaché comme il l'était à sa charge, dont il n'avait pas voulu se démettre, cherchant ainsi subrepticement à écarter les coups du destin. Et le champion mondial des poids lourds, Vasco Bolota, se fit inoculer le paludisme pour s'étioler, car une belle prestance physique était comme un signe dangereux de puissance. Dans les litiges, qu'ils soient internationaux, nationaux ou privés, chacun donnait raison à l'adversaire, cherchait à être le plus faible, le plus soumis, le plus dépouillé. Le cratère de Copernic fut équitablement partagé entre soviétiques et américains. Les capitalistes cédaient leurs entreprises aux travailleurs et les travailleurs les suppliaient de bien vouloir les conserver. En quelques jours, on arriva à un accord sur le désarmement général. On fit exploser les vieux stocks de bombes dans les environs de Saturne, qui en eut 2 anneaux brisés. 6 mois ne s'étaient pas écoulés que toute ombre de conflit, même local, s'était dissipée. Que dis-je de conflit ? Il n'y avait plus de controverses, de haines, de disputes, de polémiques, d'animosité. Fini la course au pouvoir et l'idée fixe de la domination. Et l'on vit alors s'établir surtout la justice et la paix, dont, grâce au ciel, nous jouissons toujours 15 ans après. Car si quelques ambitieux oublieux de la leçon de 1980 tentent de lever la tête au-dessus des autres, la faux invisible tsac, la lui tranche, toujours le mardi, à minuit. Les exécutions hebdomadaires cessèrent vers la mi-octobre. Elles n'étaient plus nécessaires. Une 40aine d'infarctus judicieusement distribués avaient suffi pour arranger les choses sur la terre. Les dernières victimes furent les figures de second plan. Mais le marché mondial n'offrait rien de mieux en fait de personnages puissants. Seul, De Gaulle continua à être obstinément épargné. L'avant-dernier fut George A. Sweet, dit Sweet, le célèbre présentateur de la télévision américaine. Beaucoup en furent surpris. Mais en réalité, Sweet jouissait d'un prestige formidable, tel qu'il aurait pu arriver aux plus hautes charges de la Confédération, s'il l'avait seulement désiré. Interrogé à ce sujet, le mania bien connu du turf, le comte Mike Bongiorno, qui dans sa jeunesse vers les années 50 avait connu son heure de célébrité en Italie comme un présentateur, déclara la nouvelle ne l'avait pas du tout étonné. Lui-même, Dans ses belles années, dit-il, s'était aperçu qu'il détenait à son insu un pouvoir à peu près illimité, et une nation étrangère, dont il ne révéla pas le nom, lui avait offert des mille et des cents pour qu'il poussât à la révolte, d'un mot le peuple italien, afin de pouvoir instaurer un nouveau régime. Il ne voulut pas spécifier lequel, mais par patriotisme, et bien qu'il eût un passeport américain, lui, il avait répondu non.
With photographs and magnetic tape, we capture pretty animals in cages, pretty flowers in vases. In rapture, and doesn't the tree write great poetry, doing itself so well? Do you blame Monet? His gardens in Giverny, he captured. And lovely Basho, his plunking pawns and toes, and rapture. Sound and words, is it a blessing or a curse? In rapture,
c'était donc Chasseur de vieux et la leçon de 1980, deux nouvelles tirées du livre Le cas de Dino Buzzati. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour deux autres nouvelles et vous souhaite de bien vous porter d'ici là. À la semaine prochaine.